Je m'organise. Il faut de la patience avec moi, je suis un petit vieux maintenant. Voilà, comme la plupart vous le savez, je suis aussi le beau-père de votre pasteur. Donc, je le remercie de m'avoir invité ce matin pour le remplacer pendant son absence. Voilà. Donc, avec mon épouse, nous sommes heureux d'être de retour avec vous. Hein, je vois que vous êtes aussi beau que la dernière fois. Ça, c'est bien. Alors, est-ce que le micro, ça vous convient? Parce que moi, j'ai beaucoup de trucs dans l'oreille. Hein? Il y a peut-être c'est trop de retour, je ne sais pas comment ça marche. Ça m'a toujours dépassé de ces affaires-là. Hein? Donc, je vous invite, si vous voulez bien, ce sera affiché derrière moi. Voilà, merci, ça va mieux pour moi. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, 2 Timothée 3, 16, nous lisons « Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme aussi, soit accompli, eh bien, ou une autre traduction dit adapté, eh bien, qualifié, selon les traductions, et propre à toute bonne œuvre. Amen. Eh bien, on va demander au Seigneur de bénir ce message que Dieu a placé sur mon cœur. Je vais demander à mon épouse de bien vouloir se lever et prier bien haut pour que tout le monde l'entende. Eh bien, pour le message maintenant. Merci, chérie. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai oublié de vous dire que nous vous apportons les salutations de frères et de sœurs de Digne-les-Bains, où nous habitons maintenant. Voilà. Donc, ce matin, le message que Dieu a placé sur mon cœur tourne autour de cette question, mais pourquoi lire la Bible? Pourquoi lire la Bible? Ou pourquoi lire la parole de Dieu? La parole de Dieu, si je vous parle tout de suite de parole de Dieu, c'est ambigu parce que ça peut être Jésus, qui est aussi appelé la parole, ou ça peut être aussi le livre, la Bible, qui est aussi la parole de Dieu. Et en fait, les deux sont étroitement liés. Quand on veut s'approcher de Jésus, c'est à travers le livre écrit que nous le faisons au départ. Et quand on veut lire la Bible, comme nous le faisons, nous découvrons que Jésus est le centre de la Bible. Les deux sont liés. Mais ce matin, je vous parle surtout de ce livre que nous avons. C'est un livre extraordinaire. Et peut-être, vous l'avez déjà lu ce matin, un peu, j'espère. Mais peut-être que vous êtes parmi cette catégorie, ce pourcentage de personnes que peut-être que vous ne l'avez pas ouvert depuis dimanche dernier. Hein? Car en effet, les sondages nous montrent pas mal de choses. Les sondages ont été faits à ce sujet. D'abord que la plupart des Français ont entendu parler de la Bible, mais ne la possèdent pas, n'ont jamais lu. Hein? Et ensuite, que même parmi ceux qui se disent chrétiens, il y en a qui ouvrent la Bible de temps en temps. Hein? Mais il y a même, hélas, un pourcentage faible, certes, mais de gens qui, c'est tout au long de la semaine, ils n'ont pas ouvert la Bible et ils comptent sur le dimanche matin un petit peu pour recharger les batteries. Alors, je veux être, c'est vrai, survolté pour vous recharger si possible, mais je compte sur le Seigneur pour le faire, mais je compte aussi sur le Seigneur pour vous inciter à prendre les choses un peu plus au sérieux. Pourquoi? Parce que d'abord, comme il est dit ici, Toute écriture est inspirée, inspirée de Dieu. Ce livre que nous avons, eh bien, n'est pas comme les autres. C'est un livre inspiré. Bien sûr, chaque religion a son ou ses livres sacrés. Mais il y en a que j'ai lu un peu, d'autres non. Mais de toute façon, je sais une chose, eh bien, qu'on ne peut rien comparer à la Bible, la parole de Dieu. C'est un livre inspiré. Et rien que pour ça, on devrait la lire. Hein, en se disant, oui, ben, c'est un livre que Dieu a inspiré, qu'il nous l'a donné. Eh bien, voilà, il y a suffisamment là de raisons pour la lire, pour la méditer, pour la prendre au sérieux, pour la mémoriser même et surtout pour la mettre en pratique. Comment nous savons que la Bible est inspirée? Alors, il y a toutes sortes de raisons et ce n'est pas maintenant, ce matin, que je vais développer tout cela en détail parce que sinon vous serez là à minuit. Maintenant, si vous restez jusqu'à minuit, hein? Alors, bon, il y a des raisons surtout prophétiques. La Bible a prophétisé bien des choses des centaines d'années avant, des choses qui sont arrivées, des choses qui vont arriver, des choses qui sont arrivées, mais il y a surtout l'arrivée du Seigneur Jésus dans l'étable de Bethléem. Eh bien, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, tout cela a été prophétisé des centaines d'années avant. Il y a aussi d'autres raisons géographiques. Il y a des raisons, eh bien, archéologiques. On a retrouvé toutes sortes de choses, eh bien, qui prouvent que les détails contenus dans la Bible sont vrais. Il y a aussi des raisons mathématiques. Eh bien, pour ceux qui aiment faire des recherches, eh bien, allez sur Internet et vous tapez Ivan Panin. Ivan Panin, c'était un homme de Dieu qui a vécu au début du XXe siècle. Et c'est lui qui a trouvé les schémas numériques de la Bible. Hein? À son époque, malheureusement pour lui, il n'avait pas d'ordinateur. Sinon, il aurait trouvé certainement encore bien des choses. Lui, c'était aussi un mathématicien, un homme d'origine russe qui est parti en Amérique. Et c'est lui, Ivan Panin, qui a trouvé les schémas numériques de la Bible, que dans les langues originales de la Bible, l'hébreu, l'araméen et le grec, il y a toutes sortes de schémas que c'est impossible à l'homme de les inventer tout seul. Il a fallu que ce soit Dieu qui les invite. Donc, je vous invite à faire des recherches, si vous voulez, et vous allez trouver qu'effectivement, il y a des raisons mathématiques pour dire que non, la Bible s'est inspirée. Il n'y a aucun autre livre qui n'était inspiré de cette façon-là. La Bible, c'est un livre à part. Ce n'est pas simplement un livre religieux, un livre sacré, mais c'est la parole inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alléluia. Et donc, rien que ça, eh bien, ça suffit finalement pour nous inciter à lire, à méditer la Bible. Deuxième raison, eh bien, je ne sais pas, vous, je m'adresse à vous qui êtes mariés, que vous qui êtes peut-être fiancés, aux jeunes qui peut-être un jour espèrent, pourquoi pas, trouver le grand amour, eh bien, moi, je sais que, eh bien, j'aime encore lire des lettres d'amour. Hein? La Bible, c'est une lettre d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, vous et moi, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible, c'est une lettre d'amour. Hein? Quand nous étions fiancés, j'attendais avec impatience. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de SMS, de texto. À ce moment-là, j'attendais avec impatience que le facteur passe pour m'apporter les lettres que ma fiancée m'envoyait. On les a toujours, d'ailleurs, quelque part à la maison. Hein? Eh bien, je ne disais pas, c'est une lettre de ma fiancée Dina. Bon, je lirai ça demain. Hein? Non, non. Si j'avais dit ça, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, hein, dans ma petite tête. Non, j'étais pressé d'enlever l'enveloppe, de lire, et ensuite j'étais pressé de répondre. Aujourd'hui, c'est pas des textos, c'est moins romantique quand même, c'est des textos, des SMS, etc. Enfin, c'est comme ça que les jeunes se communiquent à l'heure actuelle. Mais enfin, je pense qu'on est restés tous les mêmes dans notre cœur. On attend avec impatience de savoir, eh bien, ce que notre bien-aimé va nous dire, etc. Hein? Et je me rappelle quand j'étais assez jeune encore, j'étais ado, une fois il y a une fille qui m'a envoyé un billet doux. Ça m'a perturbé complètement. Bon, je ne suis pas resté perturbé quand même. Ah bon, avec mon épouse, ça fait 48 ans, je suis perturbé quand même. Mais elle est perturbée alors. Non mais la Bible, c'était une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. Vous ne voulez pas savoir l'amour de Dieu qu'il a pour vous? Mais bien sûr, normalement, si vous êtes un être humain normal, on veut savoir. Oui, chers amis, quand je lis dans la parole de Dieu, je découvre l'amour de Dieu pour moi. Et oui, évidemment, ça m'incite, ça m'encourage à l'aimer en retour. Et ce matin, eh bien, avec ceux qui... Tout le monde, vous tous, ceux qui ont prié, mais je sais que certains, même s'ils n'ont pas prié, c'est là dans leur cœur, ils aiment le Seigneur Jésus. La Bible, c'est une lettre d'amour. Nous trouvons aussi dans Jacques, chapitre 1er, verset 23, qui va être, voilà, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, suite, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La Bible, la parole de Dieu inspirée, c'est aussi un miroir. C'est aussi un miroir. Et vous savez qu'un miroir, dit la vérité. Dit la vérité. Le miroir ne triche pas. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous découvrons tel que ce que nous sommes vraiment. Mais c'est encore mieux qu'un miroir, dans le sens que quand vous êtes là devant votre glace, en fait, vous savez, personne n'a un visage tout à fait, totalement symétrique. Ce que vous voyez dans votre image, quand vous êtes là en train de vous coiffer, de vous raser, etc., ce n'est pas tout à fait ce que les autres voient. Vous savez, et là, il faut deux miroirs pour savoir exactement ce que les autres voient. Mais avec la parole de Dieu, avec la Bible, nous nous voyons tel que Dieu nous voit. Tel que Dieu nous voit. Et nous découvrons au départ que ce n'est pas terrible, que nous sommes des pécheurs. Autrement dit, que nous sommes laids, nous sommes impurs, nous sommes pourris, n'est-ce pas? Mais nous découvrons aussi que avec la grâce de Dieu, tout ça peut être transformé, changé totalement, radicalement, grâce à l'intervention, au sacrifice, à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du calvaire. Alléluia. Mais il est vrai aussi qu'il faut quand même continuer à regarder dans la parole de Dieu, dans ce miroir, pour savoir comment nous sommes, comment Dieu nous voit. C'est important, c'est important. Sinon, vous allez devenir comme la reine Élisabeth. Oui. Oui, pas celle qui est là aujourd'hui, mais la première, Élisabeth Ière, qui a vécu, qui a régné sur l'Angleterre au XVIe siècle, qui ne s'est jamais mariée et qui, d'après ce qu'on m'a dit, d'après les historiens, en vieillissant, elle a banni du palais toutes les glaces, tous les miroirs. Parce qu'elle se voyait, vieillir, ça ne lui plaisait pas, et donc elle a donné l'ordre que dans le palais royal à Buckingham, Buckingham Palace, pour le prononcer bien à l'anglaise, qu'il fallait enlever toutes les glaces, tous les miroirs, parce qu'elle n'avait pas envie de se voir. Il est vrai que, pour être honnête, en vieillissant, c'est pas toujours très joli. C'est pas toujours très joli. Nous avons chez nous, si vous venez chez nous prendre un repas, ne venez pas tous à la fois quand même. Hein. Eh bien, il y a au mur la photo de notre mariage, enfin le jour que nous nous sommes mariés. Et bon, moi je trouve que mon épouse n'a pas beaucoup changé. Mais quand je me vois moi, j'ai dit à mon épouse il n'y a pas longtemps, j'ai dit, c'était la photo de notre mariage, là. Oui. Mais toi, je te reconnais sans problème. Mais le mec à côté de toi, c'est qui? C'est qui? Tellement j'ai changé, tellement j'ai vieilli. Hein? Et il va arriver un moment où effectivement, je vais bannir les glaces et les miroirs de notre appartement, de notre maison. Mais sérieusement, mais avec le Dieu, c'est pareil. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur. Bon, l'homme extérieur s'est détruit, plus ou moins, hein? Mais l'homme intérieur se renouvelle, alléluia. Et ça, c'est formidable. Et surtout lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu et que nous vivons cette vie intime avec le Seigneur, gloire à Dieu. Ça, c'est formidable. Oui, la parole de Dieu, c'est un miroir qui nous dévoile, mais surtout comme Dieu nous voit. Et aujourd'hui, c'est vrai que, humainement parlant, je reste toujours un pécheur misérable, imparfait. Eh bien, faut pas que je me fasse d'illusions. Mais Dieu me regarde maintenant aussi à travers le sang précieux de son Fils bien-aimé. Je suis lavé à ses yeux, purifié, sanctifié, mis à part pour lui. Eh bien, et je sais qu'un jour, eh bien, je le verrai tel qu'il me voit. Je le verrai des choses parfaitement. Je serai comme lui dans la gloire. Que Dieu soit loué. Et tout ça, je découvre dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose de formidable. Dans Luc, chapitre 5, verset 31, eh bien, il est dit, Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Une autre bonne raison de lire, d'étudier, méditer la parole de Dieu, c'est qu'elle nous donne la bonne adresse du médecin. Hein? Et ce merveilleux médecin, ben, c'est Jésus. Le docteur céleste, le divin médecin, gloire à Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, à la sortie d'Égypte, eh bien, quand ils sont arrivés à Marar et les eaux étaient imbuvables, hein, non potables, eh bien, Dieu est intervenu et il a donné tout ça, je n'ai pas noté la référence, c'est dans l'Exode. Il s'est révélé par le nom de Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Notre Sauveur, c'est le divin médecin, hein, de l'âme, du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est mon médecin généraliste, c'est mon psy, c'est tout ce dont j'ai besoin. C'est le spécialiste. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas utiliser les médecins de ce monde. Bien entendu, ici parmi nous ce matin, il y a quelqu'un du corps médical, ne serait-ce que quelqu'un qui balaye les chambres, qui passe à la serpillière, ou un grand chirurgien, n'est-ce pas, un grand professeur. Eh bien, n'importe qui du corps médical, vous avez, je peux vous l'assurer, tout mon estime. Et je suis content que vous soyez là, hein, parce que Dieu n'est pas du tout contre le corps médical, absolument pas. Luc, l'évangéliste Luc, était médecin. Il est appelé le médecin bien-aimé. D'ailleurs, la femme de notre pasteur, le pasteur Christophe Sierra, son épouse est médecin. Hein, et de temps en temps, j'ai dit, alors comment va mon médecin bien-aimé, hein? Alors c'est vrai. Mais il est vrai aussi que dans tout ce que font les hommes, il y a des limites, et c'est bon de savoir que dans le ciel, nous avons le divin médecin. Le divin médecin, c'est la bonne adresse. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui, semblable à cette femme de l'Évangile, qui avait des hémorragies depuis 12 ans, vous avez frappé à toutes les portes, peut-être, vous avez essayé tous les spécialistes pour votre problème. Vous avez consulté un tas de gens. Et puisque ce n'est pas toujours remboursé, peut-être que vous avez vidé votre portefeuille, votre compte en banque, comme cette femme de l'Évangile, elle est venue toucher le bord du vêtement de Jésus. Et elle a voulu le faire secrètement, ne voulait pas être dévoilée, ne voulait pas que tout le monde sache. Et elle était touchée par le Seigneur. Ce que les médecins ne pouvaient pas faire, Jésus l'a fait. Alléluia. Et que ce soit aussi pour notre santé mentale, morale, spirituelle, dans tous les domaines. Eh bien, c'est bon de savoir, à travers la parole inspirée, eh bien, que Jésus est toujours là pour nous aider, pour nous visiter. Eh bien, vous êtes malade, on peut prier pour vous. On peut vous faire l'onction d'huile. Eh bien, des fois, le Seigneur peut nous aider, nous soutenir quand nous passons par les soins normaux de ce monde. Ça aussi, nous avons trouvé avec mon épouse que, eh bien, Dieu peut nous relever, nous guérir, soit en passant par les canaux normaux de ce monde, par le médecin, par l'intervention, par l'hôpital, oui, Dieu peut le faire, soit par le miracle instantané, ou peut-être pas toujours instantané, mais programmé, où c'est vraiment le miracle, spectaculaire peut-être, ou peut-être pas spectaculaire, mais le miracle. Nous avons Dieu qui fait des miracles, je le crois, je l'ai vu, ou parfois, on oublie ça. N'est pas obligé toujours d'intervenir miraculeusement de façon spectaculaire. Hein? Il n'est pas toujours automatiquement, eh bien, nous envoyer chez les médecins, comment dirais-je, normaux, si je peux les appeler. Des fois, le Seigneur peut nous mettre sur la bonne piste. Nous avons vu avec mon épouse, eh bien, que parfois, avec un problème physique, eh bien, où les soins normaux ne marchaient pas trop, tout d'un coup, par le truchement de quelqu'un ou par la lecture de quelque chose, tout d'un coup, Dieu nous a montré les soins appropriés. Qu'on n'avait pas pensé à ça. Et ça nous est arrivé. Eh bien, nous avons un Dieu, eh bien, nous avons un livre qui nous montre le Dieu qui est le divin médecin, que son nom soit loué. Alléluia. Pourquoi lire la Bible? Pourquoi méditer ce livre inspiré? Eh bien, pourquoi regarder les actualités? Hein? Parce que la réponse est à peu près pareille. Pourquoi vous suivez un petit peu les informations, hein, à la télé ou à travers Internet ou peut-être le journal, quoi que les gens lisent de moins en moins? Eh bien, ou sur votre tablette, ou n'importe, pourquoi suivre les actualités? Eh bien, c'est la même raison pour laquelle on lit la Bible quelque part, vous allez me comprendre. Non pas que je compare l'un n'est pas l'égal de l'autre, mais regardez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans Luc chapitre 21 et le verset 25, alors, les versets que nous allons lire maintenant font partie de tout un discours, tout un enseignement du Seigneur Jésus. C'était pendant ce qu'on appelle la Semaine Sainte, c'est-à-dire la semaine qui a précédé sa mort sur la croix. Jésus était à Jérusalem et à un moment donné, eh bien, il était assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers qui est en face. Aujourd'hui, vous êtes peut-être allés, avec Dina nous sommes allés. De là, vous voyez aujourd'hui la fameuse mosquée avec le dôme doré, etc. Mais à l'époque, cette mosquée n'existait pas. C'était le temple. C'était le temple qui était, à l'époque de Jésus, eh bien, jusque-là, le centre du culte juif du peuple d'Israël. Et certains des disciples on dit à Jésus, oh là là, tu rends compte, Seigneur, un petit peu ce bâtiment, c'est beau. Et pareil que c'était effectivement absolument merveilleux. C'était merveilleux. Le roi Hérode avait supervisé la reconstruction du temple. Il a fallu 46 ans qu'ils étaient en train de renouveler tout cela. Et là, Jésus, eh bien, a saisi cette occasion pour apporter tout un enseignement qui couvre deux, trois chapitres des évangiles. Et au milieu, nous avons ceci, où le Seigneur Jésus parle de son retour en gloire. Et il dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alors ça, c'est le verset 27, d'accord? Eh bien, les versets donc, que nous avons lus avant, versets 25 et 26, eh bien, si, quand vous regardez les actualités à la télé, si le journaliste, il avait, pas ce verset, mais les précédents, s'il avait dit cela, vous direz, ben oui, effectivement, c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Des signes dans l'espace, l'angoisse chez les nations, ceux qui nous gouvernent, tout, eh bien, ils ne savent pas que faire, ils sont complètement dépassés. Eh bien, les gens dans la terreur, eh bien, pour ce qui se passe dans d'autres passages de l'Évangile, il est question des raz-de-marée, des famines, des tremblements de terre, des nations qui s'élèvent contre une nation. Eh bien, quand les journalistes parlent à la télé, ben, ils parlent de ça. Et pourtant, voilà ce que Jésus a dit il y a presque 2000 ans. Autrement dit que la Bible, eh bien, n'est pas du tout un livre simplement d'histoire ancienne. Ce n'est pas simplement de la poésie ou des fables pour les enfants, les personnes âgées. Non, la Bible, c'est un livre d'actualité, mes amis. Hein, Jésus a dit ça il y a 2000 ans, 2000 ans presque. Et ce qu'il a dit là, eh bien, c'est ce que nous entendons dans les actualités d'aujourd'hui. Vous avez vu ce qui est arrivé en Indonésie, hein, il y a quelques jours de cela. Vous voyez bien que les nations, n'est-ce pas, s'élèvent les unes contre les autres. Eh bien, c'est en permanence. Les gens, n'est-ce pas, sont complètement dépassés. Ceux qui nous gouvernent, ils ne savent pas que faire pour arriver à résoudre tous ces problèmes. Eh bien, et nous savons un peu que beaucoup de ces choses, c'est lié aussi au réchauffement climatique. Eh bien, il y a donc aujourd'hui des choses qui se passent, hein, dont tout le monde est plus ou moins au courant à cause de la mondialisation. Eh bien, et pourtant, voilà, Jésus en a parlé il y a 2000 ans. La seule différence, c'est le dernier verset 27. Hein, pour l'instant, les journalistes n'ont pas encore dit cela. Hein, alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ça, pour l'instant, les journalistes ne l'ont pas dit parce que ce n'était pas encore arrivé. Mais voyez-vous, chers amis, tout ça, c'est pour nous montrer que la Bible, c'est un livre d'actualité. Autrement dit, que ce sont des prophéties qui nous avertissent. Le chrétien, on n'est pas, comme on dirait, ignorant. On est averti. Le monde est ignorant. Les gens ne savent pas que faire. Les leaders des nations sont complètement dépassés. Eh bien, ça va mal de partout. Le climat est complètement, eh bien, désordonné. Eh bien, partout, il y a une souffrance terrible. Mais le Seigneur Jésus nous montre par ces versets que Dieu, il est au courant. La différence, c'est que les gens ne savent pas où on va, sauf qu'on va tout droit dans le mur. Hein? Hein? Mais Dieu, lui, sait où on va. Dieu sait où on va, mes amis. Et quand on vient au Seigneur, quand on lit sa parole, quand on croit à ce livre inspiré, nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Et au lieu d'être là à nous lamenter, à nous pleurer sur notre sort, à se demander ce qui va se passer, nous allons faire comme dans le verset suivant. Eh bien, quand vous verrez le commencement de ces choses arrivées, redressez-vous et levez votre tête, hein, parce que votre délivrance approche. Chers amis, eh bien, le Seigneur Jésus est à la porte. Il est à la porte. Eh bien, tout est là, prêt pour son intervention. Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi tu tardes? Pourquoi tu n'interviens pas un peu plus rapidement? Et chaque fois, la réponse vient, mais ça, un temps pour tout, chaque chose en son temps. Il y a encore des âmes à sauver. Il y a encore des personnes à gagner pour le salut éternel. Et je me réjouis avec l'Église d'ici, de ce que, effectivement, vous faites des efforts pour aller atteindre ceux qui sont en dehors. Et même si beaucoup restent indifférents, eh bien, n'empêche qu'il y a certainement encore des âmes, des personnes à sauver. Il y a encore un peuple nombreux dans cette ville. Et je me réjouis de ce que bientôt vous aurez le couple Marie et Bruno. Hein, elle chante et va vous enthousiasmer par ses chants. Lui, il prêche l'évangile. Eh bien, c'est un moment béni pour apporter l'évangile à ceux qui sont en dehors. Hein. Beaucoup de gens sont en recherche, vous savez, même inconsciemment. Bon, il y en a qui sont indifférents, il y en a qui sont hostiles. Mais malgré tout, il y a un certain pourcentage de gens qui veulent savoir, comme nous autrefois. Donc voilà les bonnes raisons. Et je termine ces quelques pensées avec le dernier verset, le psaume 1, premier psaume, hein, où nous lisons le verset premier. Hein, ça va arriver. Je parle par la foi, là. Hein. Ça va arriver, ça va... Ça y est, ça t'est là. Heureux l'homme et la femme, le jeune, le moins jeune, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez que notre société moderne, c'est une société de moqueurs. Hein. De moqueurs. Hein. Et le verset 2... mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ce livre inspiré, la Bible, qui la médite jour et nuit. Quelqu'un dit que quand vous ne dormez pas la nuit, quand vous êtes là, insomniaque, on nous dit dans le monde de compter des moutons. Quelqu'un a dit qu'il vaut mieux s'adresser au berger que de compter les moutons. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, regardez, parce que ça m'intéresse. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et chers amis, je veux réussir ma vie. Je ne veux pas arriver à la fin avec le sentiment que j'ai tout raté, que j'ai tout gâché, que j'ai perdu mon temps, que si c'était à recommencer, je ferais tout à fait autrement. Non, je ne veux pas arriver à la fin en pensant ça. Et même aujourd'hui, je ne veux pas penser ça. Je veux réussir ma vie. Donc, pour réussir ma vie, voilà la solution. Je médite la parole de Dieu, le jour, la nuit, si je ne dors pas, n'est-ce pas? Je cherche. Parce que, eh bien, la raison, c'est la même raison pourquoi on étudie le code de la route. Pourquoi on étudie le code de la route? Est-ce que ça sert à quelque chose, le code de la route? Vous savez, au début, pourquoi on a inventé le code de la route? Parce qu'au début, quand les voitures ont fait leur apparition, ils étaient à l'époque très peu nombreuses, il n'y avait pas encore de code de la route. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il fallait inventer un code de bonne conduite, il fallait quelque chose. Et si, alors déjà, avec le code de la route, il y en a quand même pas mal d'accidents. Alors vous imaginez pas, s'il n'y avait pas le code de la route, hein, le nombre d'accidents qu'il y aurait, hein, on n'arrive pas à imaginer. Hein, le code de la route est nécessaire pour se préserver des accidents, hein, et pour arriver à bon port. Voilà. Hein. Et si vous allez, si jamais vous allez en Angleterre, hein, dans l'île de Beauté, hein, là, chez moi, eh bien, une des premières choses, si vous êtes avec votre voiture, c'est que le code de la route n'est pas tout à fait comme en France. D'ailleurs, vous avez vu, le volant est de l'autre côté, hein, et vous allez conduire non pas à droite, mais vous allez conduire à gauche, et parce que là-bas, bah, la loi, c'est comme ça, c'est le code de la route comme ça. Vous n'allez pas arriver là-bas en disant « Oui, mais moi, je suis français ». Moi, je suis pas d'accord avec vos façons de faire. Moi, je conduis, comme en France, je conduis à droite. Vous n'avez qu'à changer vous autres. Essayez, vous verrez bien ce que ça donne. Hein? Je n'ai pas souvent maintenant l'occasion de conduire en Angleterre. Mais je fais très gaffe. Je conduis beaucoup plus lentement qu'en France. Parce que les réflexes, c'est le contraire là-bas. Et ça m'est arrivé une fois ou deux de démarrer et tout d'un coup, oh là là, je suis du mauvais côté de la route. Hein? Alors bon, hein? Mais c'est facile. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le code de la route spirituel. Et si on néglige de méditer la parole, tout ça, on retombe facilement dans des mauvaises habitudes d'autrefois. C'est pour ça qu'on a besoin de conduire, d'observer, de connaître et de mettre en pratique le code spirituel, les lois du royaume, eh bien, c'est nécessaire et indispensable. Et ne pas penser quelque part qu'on est arrivé, qu'on n'a plus besoin de tout ça, qu'on peut oublier, qu'on est assez grand. Non, non, non. N'est-ce pas? Eh bien, la Bible, c'est aussi notre code de la route pour arriver au bon port. Pour réussir notre vie, moi je veux réussir ma vie. Et jusque-là, merci Seigneur, tout n'a pas été parfait, mais quand même, parce que je médite, eh bien, et je cherche à mettre en pratique ce livre inspiré que Dieu nous a donné. Voilà, que Dieu vous aide à le faire, que Dieu nous aide à le faire, et à lui soit toute la gloire, que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. C'est ton livre inspiré. Il n'est pas comme les autres livres, il est tout à fait à part, il est incomparable. Et c'est le livre, Jésus, où toi, tu es omniprésent, tu es le centre. Seigneur, tout tourne autour de toi. Seigneur, aide-nous à prendre ces choses au sérieux, à marcher dans tes bonnes voies, à méditer ta parole, à chercher à la mettre en pratique avec ton aide, ta grâce, avec l'inspiration de ton esprit. Donc sois loué, sois béni, sois glorifié. Et tout cela, Père, nous le disons en priant dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Et tout le peuple redit Amen. Que Dieu vous